Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Il est une expression qu'on entend souvent dans les médias et dans la bouche de ceux qui y interviennent. C'est le fameux « vivre ensemble », ce mot-valise qu'emploient souvent les politiques et les sociologues, et qui semble tout droit sorti d'un cabinet de communicants. Mais quoi qu'on en pense, si l'expression revient si souvent, c'est que le simple fait de vivre les uns avec les autres, de cohabiter de manière apaisée, ne va plus de soi, et que c'est un vrai problème pour notre société présente et future. À tel point que, sous le terme de cohésion sociale, c'est un domaine de compétences et d'action pour ceux qui nous intéressent dans cette émission, la métropole toulousaine. Que recouvre exactement cette compétence? Quelles sont les missions qui y sont liées? Comment assurer la cohésion sociale au niveau métropolitain? Et quel rôle peut jouer Toulouse Métropole dans ce domaine? Voilà les questions auxquelles nous essaierons de répondre lors de cette émission. Et pour nous aider à y répondre, nous avons invité Julie Escudier, vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de la cohésion sociale et conseillère municipale déléguée chargée de mission à la mairie de Toulouse. Julie Escudier, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également avocat, alors vous me direz s'il faut dire avocat ou avocate, et vous êtes une jeune élue puisque vous êtes entrée au conseil municipal de Toulouse lors des dernières élections, c'était en mars 2014. Alors je pense que nos auditeurs ont peut-être besoin de mieux vous connaître. Alors pour ça, est-ce que vous pourriez déjà préciser ce qui vous a amené à vous engager en politique et à prendre en charge ce domaine si particulier de la cohésion sociale en tant qu'élue?
Bonjour, donc merci de m'avoir invitée, je suis donc ravie d'être parmi vous. Effectivement, comme vous l'indiquiez, je suis donc vice-présidente en charge de la cohésion sociale. Alors peut-être qu'on va commencer par le pourquoi d'un engagement, puisque vous avez souligné à juste titre un engagement récent. Pour une raison simple, parce que je me suis dit que tout citoyen au fond avait un rôle à jouer, et les rôles à jouer sont divers, peuvent être différents. Mais à un moment donné, j'ai senti que, puisque par mon métier, de toute manière, puisque comme vous le soulignez également, je suis avocate et en charge de suivi essentiellement en matière de droit de la famille, je suis proche des gens et dans la résolution de difficultés majeures, hein, puisqu'on sait que des situations de conflit ou des situations de séparation ou de divorce engendrent de très nombreuses difficultés. Et je me suis dit que donc comment être proche des gens en pouvant écouter, entendre, donc être à l'écoute permanente, tout en ayant aussi une possibilité d'action au quotidien pour pouvoir au fond se faire à la fois le relais de ce que l'on entend et voir comment au niveau d'une intervention locale on peut agir concrètement en entendant les besoins des gens et en voyant comment les maillages au sein des institutions peuvent être faits de façon à être vraiment au service des gens, parce que c'est vraiment ça, c'est toute la question de les politiques quelles qu'elles soient, l'utilité d'une politique quelle qu'elle soit, c'est l'utilité et l'utilité précise au service des individus.
Et là, on est vraiment dans l'action politique au sens le plus noble qui soit, c'est-à-dire, entre autres, hein, on l'oublie parfois, gérer l'ensemble des rapports qui régissent une société. Alors, on va maintenant passer à notre rubrique habituelle de l'actualité de la métropole, justement, et la cohésion sociale revient, en tout cas des thèmes qui sont liés à la cohésion sociale, ils reviennent souvent, on va voir si c'est le cas aujourd'hui. On retrouve donc Corinne Saint-Félix pour son bulletin d'information métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu! Et dans cette actualité, Corinne, il y a une très bonne nouvelle. L'accès à la voirie et aux espaces publics de la métropole devrait s'améliorer.
Oui, mardi, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, a signé la charte d'accessibilité de la voirie et des espaces publics avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap. Ce plan, appelé le PAV, est devenu métropolitain depuis le 1er janvier 2016 par transfert de compétences. Objectif affiché, améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, de l'espace donc public, mais aussi du stationnement automobile par exemple. Elle est destinée notamment aux techniciens aménageurs, aux entreprises, aux élus et aux associations.
Et puisqu'on parle de mobilité, de déplacement, où en est donc le projet de la ligne à grande vitesse?
Eh bien, Jean-Luc Moudin et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont organisé lundi à l'hôtel de région une réunion avec les collectivités appelées à financer la ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Un point a été fait sur l'état d'avancement du projet. Deux décisions majeures ont émergé de ces échanges. Ils ont confirmé ensemble le principe d'une convention. Elle prévoit d'engager de manière prioritaire une enveloppe de 45 millions d'euros, financée à 50% par l'État et à 50% par les deux métropoles et les deux régions. Elle permettra aussi de donner le coup d'envoi des programmes d'études et des acquisitions foncières indispensables à la réalisation de ce projet. Et à ce stade, aucune autre collectivité ne sera sollicitée pour assurer au plus vite le lancement de ces études.
Autre grand projet porté par les villes de Toulouse, le projet du Grand Saint-Cernin qui vient d'être enfin dévoilé.
Oui, la basilique Saint-Cernin, sa place et son patrimoine culturel vont faire l'objet d'un vaste projet d'aménagement. Cette basilique, c'est un chef-d'œuvre d'art roman et c'est l'un des grands monuments de Toulouse. C'est aussi un point d'étape des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Objectif de ce projet, donc, restaurer et valoriser cet édifice religieux aujourd'hui isolé. La place qui l'entoure sera aussi aménagée et ce projet s'inscrit aussi dans la démarche de Toulouse pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va être réalisé?
Alors, il faut s'attendre à une présence beaucoup plus forte du végétal. 100 arbres supplémentaires seront plantés en plus des 50 qui sont déjà présents. Le jardin déjà existant sera étendu et un nouveau jardin sera créé devant le lycée Saint-Cernin. L'objectif, c'est aussi d'allier la mise en valeur historique et de prendre en compte les usages futurs de la ville et du quartier. Cela se traduit par la création d'un espace apaisé autour de toute cette place, avec la disparition notamment en grande partie du stationnement, réduction aussi du bruit, de la pollution, le tout bien sûr en prenant en compte la sécurité.
Et des restaurations sont également prévues sur le bâti.
Tout à fait. Le massif occidental, où un filet protège aujourd'hui des chutes de pierres depuis 2008, sera restauré, tout comme les peintures du transept nord. Il est aussi prévu l'assainissement de la crypte. L'enfeu, c'est cet espace où un tombeau est encastré dans l'épaisseur d'un mur d'un édifice religieux. Il accueille les tombeaux des comtes de Toulouse et il sera aussi remis en valeur. Et pour parler de l'histoire du site et mieux la présenter au public, un musée de l'œuvre sera normalement installé à proximité de l'édifice. Une page dédiée au projet est déjà même mise en ligne jusqu'au 15 octobre pour discuter et proposer tout ce qu'il faut autour de ce projet.
Ah, ça, c'est un projet qui concerne directement notre invité du jour, Julie Escudier, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous êtes également maire de quartier à Toulouse. Et parmi les quartiers que vous avez sous votre coupe, j'allais dire, il y a celui de Saint-Cernin.
Tout à fait, oui, un très très grand projet. Donc effectivement, comme vous l'avez très bien repris et expliqué, un projet d'envergure, un projet qui ne s'arrête pas à la place, et je ne vais pas reprendre tout ce que vous venez de dire, mais un projet qui permet effectivement de structurer aussi, outre l'aspect patrimonial qui est un critère de valorisation, puisqu'effectivement on vise l'UNESCO et que bon, y a une vraie valeur patrimoniale autour de chaque projet. Vous avez vu que les murs digues de Sagère, la Dorade ont été repris, que la Dorade, que ce soit la partie haute ou la partie basse, a également été requalifiée, de même pour Saint-Pierre, Salin bientôt. Donc il y a de très grands projets de réhabilitation sur la ville et de rénovation et de requalification pour cet aspect patrimonial UNESCO, mais j'attire l'attention sur le fait qu'effectivement ces projets sont toujours en concertation, c'est-à-dire nous essayons à la fois d'avoir un embellissement pour la ville, une valorisation, mais à la fois tenir compte aussi des usages, parce que c'est primordial, et un projet tenant compte des usages est un projet qui sera d'autant plus respecté, d'autant plus valorisé. C'est toujours le principe même de quand on fait sien quelque chose, forcément, on le respecte déjà soi-même davantage et on le valorise encore plus. Donc, comme vous le disiez aussi, des contributions peuvent être apportées. La semaine dernière, la présentation donc, du projet a eu lieu en présence donc, d'Annette Léniaud en charge de l'urbanisme. Et depuis la semaine dernière, donc, nous avons ouvert sur le site internet la possibilité à toute personne de venir contribuer pour effectivement, sur ce projet, esquissé, présenté, venir faire des propositions pour pouvoir améliorer ce qui a été présenté. Et ensuite, c'est vrai qu'à chaque fois qu'au fond une requalification intervient, ça touche également d'autres quartiers de la ville. C'est-à-dire, là, on a Saint-Cernin, mais à côté de Saint-Cernin, on a aussi Arnaud Bernard, donc en même temps, sont en train d'être travaillées des visions globales d'une ville.
Voilà, alors je précise que ce projet du Grand Sassernin qui s'inscrit dans le dossier pour la candidature au patrimoine, pour classer le centre de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO est porté par la ville de Toulouse, mais on peut dire quand même qu'il y aura des retombées, je pense, pour l'ensemble de la métropole.
Hein. Bien sûr, bien sûr. Comme tout grand projet, bien évidemment, la métropole est impactée et impactée positivement.
Alors, grand projet patrimonial, donc grand projet culturel, on dit souvent que la culture, c'est créateur de liens sociaux, on l'entend souvent. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de cas. Donc ça nous amène à notre sujet du jour, la cohésion sociale. On en parle dans quelques instants avec vous, Julie Escudier.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Deuxième partie de Métropole et vous avec notre invitée Julie Escudier, conseillère municipale de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est le sujet de cette émission, il est vaste et complexe, à l'échelon national bien sûr, mais aussi à celui de la métropole toulousaine. Toulouse Métropole, je le rappelle, c'est près de 750 000 habitants répartis sur 37 communes, avec des tailles, des sociologies très différentes. Il y a 100 000 étudiants, de nombreuses nationalités, des habitants et des communautés d'origine de plus en plus diverses sur notre territoire. Il y a aussi, il faut le rappeler, plus ou moins 60 000 chômeurs et personnes en situation de précarité professionnelle. Alors comment on fait pour assurer la cohésion sociale dans une aussi grande collectivité, aussi diverse? Quel rôle peut jouer Toulouse Métropole pour y aider? On aborde dans quelques instants toutes ces questions et les missions et actions que vous menez, Julie Escudier, à la Métropole. Je voulais quand même, au préalable, vous demander quelle définition, quelle conception vous avez de la cohésion sociale?
Alors, la cohésion sociale, c'est une politique qui se doit d'assurer le bien-être, au fond, de tous les membres de la société, de réduire, au fond, les écarts de développement entre les quartiers, entre les communes, de renforcer le lien social pour l'ensemble de la population et favoriser l'inclusion sociale des publics, et des publics souvent les plus vulnérables. Voilà, en quelques mots, puisqu'effectivement la notion est vaste, la notion peut englober beaucoup de choses et beaucoup de compétences aussi communales. Voilà, donc je pense que cette définition...
Oui, parce que c'est à la fois un concept sociologique et puis c'est devenu un domaine de compétences des métropoles, d'ailleurs de toutes les métropoles, pas seulement celle de Toulouse.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines compétences qui deviennent ou qui sont des compétences transférées, qui vont être transférées à la métropole. Et après, il y a des choix qui ont été faits de travail sur certaines actions qui ne relèvent pas forcément de façon obligatoire de la compétence métropolitaine, mais qui ont été repérées comme des actions nécessaires pour que, justement, il y ait plus de cohésion, au fond, dans les interventions communales.
Alors cette question, là, qu'est-ce que la cohésion sociale? Nous l'avons posée également aux citoyens de la métropole. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander ce qu'évoquait cette expression et s'ils avaient le sentiment qu'elle existait dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous, micro-trottoir.
Le désir de vivre ensemble, plus fraternellement, plus d'échanges, moins d'excitation, moins de haine, moins de tension.
La cohésion sociale représente plutôt la solidarité sociale, le partage, l'échange entre les diverses catégories de population.
Ça évoque le lien entre les citoyens, les êtres humains, simplement.
La cohésion sociale, cela fonctionne selon vous dans la métropole?
Je trouve que Toulouse est une ville ouverte, que l'échange se fait assez facilement, qu'il y a moins de tensions aujourd'hui qu'il n'y en a eu les années précédentes.
Pas tout le temps, non. Je suis dans l'enseignement primaire et je peux vous dire que d'une école à une autre, c'est pas du tout pareil. Dans certains secteurs, on ne trouve que très peu de mixité. Au niveau de la scolarité, je trouve que ça ne marche pas très très bien.
Cette cohésion sociale a du mal à exister. Bah, il manque tout ce qui pourrait la fluidifier, l'harmoniser.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos élus dans ce domaine?
Mais ils ne sont pas les seuls maîtres à la matière. C'est-à-dire que les citoyens ont un rôle à jouer. Ils ne peuvent pas, eux, exiger des gens qui communiquent.
Alors, je pense que déjà au niveau de l'habitat, c'est sûr que vous venez au centre-ville, il y a très peu d'enfants issus de l'immigration. Vous allez en banlieue, il n'y a pratiquement que ça. S'ils habitaient un peu plus de façon mélangée, on va dire, ça se retrouverait après au niveau de la scolarité, de la vie de tous les jours.
je pense qu'il faut que les quartiers vivent plus, qu'il y ait plus d'animation dans les quartiers. Les gens, même dans une métropole comme ça, recherchent quand même un environnement un peu village.
Qu'ils sortent de leur bureau et qu'ils aillent au contact des citoyens, voilà, qui jouent leur rôle de lubrificateur, entre guillemets, de l'espace public.
Voilà les réactions qu'on a pu recueillir au cours de ce micro-trottoir. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu des choses bien précises. Ce qui transparaît souvent, ce que les gens mettent derrière la cohésion sociale, on a entendu ça au début, c'est la solidarité. La mixité aussi sociale, hein, on a entendu ça assez souvent, on parle de les gens qui parlaient de l'habitat, de faire en sorte que les gens puissent se mélanger. On voit dans beaucoup de grandes métropoles, et Toulouse n'échappe pas à la règle, on parle de gentrification du centre, hein, boboification parfois on entend, et serait rejeté à la périphérie les gens qui sont un peu plus dans des difficultés financières ou d'intégration. Est-ce que vous y retrouvez dans tout ce qu'on a entendu là, et vous retrouvez des préoccupations qui sont les vôtres?
Oui, bien sûr. Donc, on retrouve des préoccupations effectivement qui sont les nôtres, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes les questions d'habitat qui sont des questions majeures et qui effectivement sont en lien direct avec la cohésion sociale. Mais il y a à la métropole une commission donc spécifique chargée de ces questions-là. Et nous, commission cohésion sociale, on fait des ponts justement, et c'est l'objectif de faire des ponts entre les diverses commissions pour créer justement des maillages de façon à ce que on ait des visions qui soient au service des gens et que y ait des mises en œuvre facilitées entre les commissions. Qu'est-ce que la métropole au titre de la cohésion
voilà,
sociale
missions, voilà missions,
quelles les... sont les missions qui sont suivies dans le cadre de la cohésion sociale. Donc ça concerne donc toutes les questions d'éducation et de parentalité, toutes les questions d'accompagnement à la scolarité, la prévention de la délinquance, l'emploi insertion et la politique de la ville. Bon, à peu près, hein, ce sont
les
grandes lignes qui étaient investies. Mais il faut savoir que récemment, nous avons souhaité pouvoir justement effectuer au fond des diagnostics des besoins avec les communes, puisque comme nous l'indiquions tout à l'heure, ce sont souvent des compétences communales.
À la base.
Et donc la métropole, c'est l'instance qui va permettre au fond de développer de l'ingénierie commune, de la mise en commun de ce qui est déjà fait dans certaines communes, pour pouvoir soit se servir des compétences aussi faites de ce qui a été développé dans certaines communes et qui peut être appliqué à une autre.
C'est les bonnes pratiques, exactement.
C'est aussi, est-ce que par les actions que nous finançons, qui sont des actions d'intérêt métropolitain, on a bien un maillage territorial de façon justement à ce que l'ensemble des territoires, les 37 communes, puissent s'y retrouver en fonction de leurs besoins et en fonction du besoin de leur public. Tout ça est en construction à nouveau, puisque on s'est dit qu'il fallait se réinterroger à 37, l'ensemble des communes, pour pouvoir avoir justement ce diagnostic et construire de façon précise ce qui peut être porté et financé par la métropole. Donc j'attire vraiment l'attention sur la nécessité de co-construire et de créer une adaptation aux besoins.
Ça veut dire que vous pouvez apporter aussi bien des moyens financiers, mais des compétences, je suppose, également, à votre niveau.
Tout à fait. C'est des moyens financiers, c'est des compétences, donc c'est-à-dire des moyens financiers concrètement par le financement donc d'associations. On aura un œil attentif, effectivement, sur l'intérêt métropolitain, hein, et avec une évaluation de façon à voir si le public concerné est bien un public métropolitain. Et la définition aussi de thématiques qui peuvent être autres que celles financées jusqu'alors, parce qu'on se rend compte que justement un réajustement doit être fait parce que les besoins réels se situent aussi ailleurs.
Et ils peuvent évoluer, je suppose, ces besoins.
Bien sûr, ils peuvent évoluer. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est de se définir annuellement des thématiques comme étant des thématiques priorisées et de refaire un point donc chaque année. Enfin, on fera un point permanent, hein, puisqu'on va avoir des référents communaux, hein, c'est-à-dire il y a à la fois l'interlocuteur politique, mais à la fois l'interlocuteur directeur administratif de référent communal pour pouvoir justement être en permanence vigilant aux besoins.
Je suppose qu'on vous remonte beaucoup de problèmes ou problématiques différents, donc vous êtes obligé de faire des choix, en tout cas de prioriser, vous avez employé le terme, certaines actions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire dans le domaine de la cohésion sociale?
Alors aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est toutes les questions d'éducation et de parentalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en fait, tout ce qui est accompagnement à la scolarité et l'emploi-insertion également. L'emploi-insertion, alors là, c'est dans le cadre, je peux vous en dire quelques mots, puisque c'est un dispositif qui est très intégriste, donc que je trouve très intéressant, puisque, si vous voulez, on prend l'individu dans son intégralité. C'est-à-dire concrètement, quand une personne est dans une situation de non-emploi, depuis une certaine durée, hein, Toulouse Métropole donc a mis en place un dispositif qui s'appelle le PLI, qui est le plan local d'insertion et d'emploi, où en fait il y a un référent unique, hein, qui suit la personne, j'ai envie de dire, de A à Z, jusqu'à ce qu'il y ait une sortie vers l'emploi, en levant les freins. Parce que quand on est dans une situation de non-emploi, ça peut être plusieurs choses qui font difficulté.
Oui, ça peut être des raisons psychologiques, des raisons de santé, des raisons familiales.
Voilà, exactement. Ça peut être une impossibilité en raison d'une impossibilité de garde d'enfant. Ça peut être lié au fait qu'on a perdu confiance en soi. Ça peut être lié effectivement à un problème de mobilité. Divers freins peuvent être cumulés, d'ailleurs. Et l'objectif de la métropole, là, justement, c'est, grâce au référent, d'orienter la personne en fonction du diagnostic au fond qui est effectué, hein, et de lever tous les freins en même temps ou tout au moins de façon successive pour pouvoir accéder à la mise en emploi. Donc le taux de réussite est un taux important, hein, puisque alors que le non-emploi est profond, on est à un taux avoisinant les 50% de réussite, donc avec des personnes qui souvent sont en très très grande difficulté.
Et vous travaillez avec les équipes communales de toutes les communes de la métropole, sachant qu'elles ont des tailles, je l'ai dit tout à l'heure, très différentes. Mais je suppose que vous êtes amené aussi à travailler avec des associations qui œuvrent directement sur le terrain. Il y a vraiment un travail très proche avec eux, vous les rencontrez souvent, il y a des réunions communes.
Ah oui, il y a un travail proche avec les associations, il y a effectivement aussi un réajustement en fonction des actions mises en place. On réévalue les actions pour voir si effectivement l'objectif au fond d'utilité est atteint, quitte à modifier nos conventions et à réajuster la politique publique, si on se rend compte qu'on peut aller plus loin.
Autre question que moi je me posais, qui est abordée un peu dans le micro-trottoir, la question de la mixité sociale. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte? Est-ce que vous avez le sentiment que Toulouse est une ville qui se communautarise? Est-ce qu'il y a des actions là-dessus, en tout cas? Est-ce que c'est un axe de travail important?
Oui, il y a une vigilance importante, effectivement, hein, de façon à ce que, on sait que les contrats de ville donc ont été signés avec des engagements forts, une véritable volonté du maire président de suivre très particulièrement toutes ces questions, et avec une volonté à la fois de valoriser les quartiers aussi politiques de la ville pour ne pas si stigmatiser en ces quartiers et arriver aussi à les valoriser, hein, c'est-à-dire c'est tout un travail de flux entrant et sortant, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un véritable objectif, et la mixité est effectivement une nécessité.
On en parlait la semaine dernière avec Jean-Luc Moudin lorsqu'il est venu. Toulouse est une métropole avec des territoires très différents, notamment il y a des territoires qui, eux, sont ruraux, avec des toutes petites communes. Là, je pense que les problèmes d'insertion doivent être très différents. Il y a des gens qui sont vraiment esselés. Je pense notamment, on entend souvent parler des agriculteurs qui ont des difficultés, les suicides dans ce milieu. Est-ce qu'il y a un suivi particulier pour ces territoires et pour les gens qui y vivent?
Oui, c'est-à-dire le suivi, au titre donc de la cohésion sociale, hein, et c'est l'objectif au fond de justement les orientations de la métropole partagée, qui est vivre ensemble et cohésion sociale, l'objectif c'est bien d'avoir un projet qui correspond à une vision métropolitaine partagée.
Oui.
Donc, c'est-à-dire qui tient compte aussi des différences de taille, des différences de public, des différences de l'ensemble
de
des différences qui,
hein,
au fond, oui. Voilà, qui au fond correspondent aussi à des richesses. La vision partagée, c'est bien cela que ça signifie, c'est-à-dire de notre différence, arrivons à construire quelque chose qui aura, grâce aux richesses de chacun, et sera un atout pour la métropole. Donc voilà, donc c'est plus que pris en compte.
Eh bien, je propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup, Julie Escudier, d'avoir participé à ce numéro de Métropole et vous, la cohésion sociale, les relations sociales, sujet vaste et complexe, comme je l'ai dit au début de cette émission. Mais c'est d'abord notre affaire à tous, au quotidien. Nos élus ne peuvent pas tout dans ce domaine. Vous avez cependant pu voir au cours de cette discussion qu'ils ont un rôle à jouer, au même titre que les associations et les personnes qui œuvrent sur le terrain. Je vous invite à consulter le site de Toulouse Métropole pour savoir ce qui existe et connaître le détail des services et des actions en cours. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, passez un bon week-end et n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.